mission en Chine. Et nous étions arrêtés la dernière fois à l'épopée de Hui Man, qui était donc en fait le successeur du Tsun Taylor et qui avait essayé de faire libérer un certain nombre de gens qui étaient sur le point d'être massacrés parmi les missionnaires contre une rançon de 20 000 dollars en 1934. La rançon était arrivée trop tard et les prisonniers donc avaient été mis à mort, si ce n'est une personne qu'il avait réussi à sauver. Le 15 mai 1935, Hui Man lui-même est libéré en tant que citoyen suisse après avoir passé 18 mois en captivité. Le 2 octobre 1937, il revient en Europe pour en quelque sorte expliquer ce qui se passe Chine. Notamment, l'année suivante, il se rend chez les parents des Stan, ce jeune couple qui avait été assassiné, vous vous souvenez, en Chine. Et en 1940, donc, il revient en Chine. Il revient en Chine pour essayer de ressusciter l'œuvre, profitant justement des grands bouleversements politico-militaires que connaît le pays. Mais devant l'avance japonaise, il est obligé de se retirer. Et il se réfugie en Birmanie et en 1941 au Pakistan. Il va rester là-bas jusqu'à la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre, il organise une grande réunion missionnaire sur la Chine pour aviser par rapport à l'avance de l'armée soviétique, de l'armée, pardon, de l'armée rouge, l'armée de Mao Tse-Tung, qui a entrepris, comme on le sait, sa longue marche. Beaucoup de missionnaires décident alors de quitter le pays, mais lui décide de rester sous le régime communiste, notamment prenant au mot les autorités nouvelles qui ont annoncé qu'elles ne changeraient rien et que, notamment, elles ne lutteraient ni contre les chrétiens ni contre les missionnaires. Mais très vite, il faut déchanter et se rendre compte que ces promesses n'étaient que des propos en l'air, car très vite, les missionnaires et les chrétiens reçoivent l'ordre de ne pas propager la foi chrétienne en dehors de l'Église, ce qui est toujours le premier pas dans une persécution et ce que on est en train de voir pratiquement se réaliser dans notre pays. C'est aussi la fin des réunions en plein air. Ça aussi, toute ressemblance avec des événements contemporains serait tout à fait fortuite. Puis ensuite, les écoles confessionnelles sont nationalisées. Là aussi, bien sûr, n'y voyez aucune allusion à des événements contemporains. Et puis ensuite, alors, on passe aux persécutions ouvertes. Il y a des délations par des espions qui assistent aux réunions, comme c'est toujours le cas dans les pays communistes. On a vu ça aussi en Tchécoslovaquie dans les années 70. Les chrétiens et les missionnaires sont torturés. Et Hui Man vit 18 mois sous le régime communiste. Malgré cela, il parvient à tenir trois services de baptême. Et les deux premiers se passent à peu près bien, mais le troisième, il est arrêté. Puis il est assigné à résidence et enfin il est relâché. En janvier 1951, sa mission le rappelle pour ne pas créer de difficultés aux chrétiens chinois. Et là, on a pour la première fois donc la nécessité de laisser la responsabilité de l'Église indigène aux pasteurs locaux. C'est le début d'une décolonisation qui marquera aussi les missions tout au long du XXe siècle. Pourtant, malgré le départ des missionnaires, les exactions contre les chrétiens locaux se multiplient. D'ailleurs, Hui Man lui-même doit attendre 5 mois avant de recevoir son visa qui lui permet de quitter le pays. Et depuis la Chine, il va passer au Laos, où il va donc évangéliser ce pays. Deviendra d'ailleurs le directeur de la mission, d'une mission qui est une branche justement de la mission à l'intérieur de la Chine, qui va donc travailler maintenant au Laos. À côté de Hui Man, il y a un autre apôtre de la Chine au début du XXe siècle, c'est Frasser, le pasteur Frasser, qui est l'apôtre du Yunnan, c'est-à-dire la région du Yangtze-Kiang, c'est-à-dire le grand fleuve bleu. C'est en 1906, où il était plutôt étudiant ingénieur à Londres, qu'il reçoit l'appel pour évangéliser la Chine. C'est en plus de ça un pianiste de talent. Et donc cette année-là, il se porte candidat pour devenir membre de la mission à l'intérieur de la Chine. À 22 ans, il est envoyé donc au Yunnan pour évangéliser tout particulièrement des tribus primitives qui sont encore à l'état d'aborigènes. Et le 20 octobre, il a la joie de voir éclater un réveil dans cette région, parmi ces populations-là, qui ont été épargnées par la révolte des Boxers. Là, il passe dans un autre territoire encore inexploré, dans une tribu qui s'appelle la tribu des Lissus, et il les évangélise. Il découvre aussi d'autres tribus. Mais tout ça demande des fonds, et Fraser revient en Angleterre, où il donne des concerts de piano pour financer sa mission, puis il repart vers ses montagnards. C'est là qu'il va s'opposer au commerce de l'alcool et de l'opium, qui fait des ravages dans toute la région. Depuis la Mandchourie jusqu'en Birmanie. Les Lissus veulent le marier d'ailleurs pratiquement avec une de leurs filles. Bon, évidemment, ça montre aussi la popularité qu'il avait acquise parmi ces populations-là. Et il va traduire la Bible en Lissus. Il tient particulièrement à son indépendance financière. Il a adopté la vie tout à fait simple et primitive finalement des Lissus. Et il va changer donc entièrement. Il va, comme l'avait fait Hudson Taylor, n'est-ce pas, prendre les coutumes, le costume, le mode de vie, l'alimentation, le mode d'habitat de ces populations avec lesquelles il s'identifie, n'est-ce pas. Puis ensuite, il va former des prédicateurs indigènes. Il crée aussi des conventions bibliques où il rassemble donc tous les gens issus de ses travaux d'évangélisation. Lorsqu'il revient en Grande-Bretagne, les responsables de sa mission décident de l'envoyer dans le Kasaï. Et il y va à regret parce qu'il a beaucoup de peine de quitter ces Lissus. C'est une des régions les plus désolées de l'Asie. Les responsables de la mission l'ont envoyé là parce que justement, l'évangélisation est extrêmement difficile. Trois femmes seulement ont réussi à s'implanter dans cette région-là. En 1927, le seul missionnaire qui était venu essayer de les seconder avait dû quitter, chassé par l'avance des Rouges. Donc, Fraser y retourne avec deux jeunes Américains qui sont venus lui prêter main-forte. C'est là qu'il rencontre Rosalie Renault, qui est fille de missionnaire, elle a 22 ans. Et donc, lui, il en a 42 et il se marie en octobre 1929. C'est là qu'il rencontre Godsworth et le fameux réveil qui secouait la Chine à cette période-là. Le réveil va éclater donc en Birmanie aussi, au Laos, je veux dire, l'endroit où il travaille. Et en fin de compte, Fraser se joindra au mouvement de Pentecôte qui avait gagné aussi la Chine à cette période-là. Il meurt le 15 septembre 1938. Peu après sa mort, sa femme d'ailleurs a une troisième fille. Avant sa mort, il a eu le temps donc de créer une école biblique. Depuis le Laos, en 1943, un certain nombre de missionnaires aussi essayent de gagner le Japon, qui est en pleine guerre, comme on le sait, et d'où les missionnaires, évidemment, ont dû fuir. Là, ils découvrent en fait 45 églises locales, indigènes, qui sont absolument florissantes. À la fin de la guerre, les missionnaires de la mission donc du Laos rejoignent la Chine à nouveau, et notamment la région de Pékin. Hélas, ils ne peuvent rester là-bas dans cette région qu'un an environ, puisque en 1950, ils doivent quitter la Chine, sur laquelle, donc dans les années suivantes, de nombreuses persécutions s'abattent. Les autorités donc ont interdit la pratique du culte chrétien. Ils confisquent les Bibles et la littérature chrétienne, puis ils arrêtent les croyants et certains sont mis à mort, ce qui provoque un exode des chrétiens chinois qui, par milliers, fuient dans les pays voisins, notamment la Birmanie et la Thaïlande. Mais bien sûr, ça va être aussi positif pour ces pays, donc qui vont avoir ainsi la possibilité d'être évangélisés par ces chrétiens venus de Chine. Ces chrétiens vont travailler donc jusqu'au au début des années 60 dans ces pays limitrophes de la Chine, et notamment dans des communautés chinoises importantes, une diaspora chinoise très importante qui a lieu donc dans tous les pays de l'Asie du Sud-Est et qui vont être évangélisés aussi par ces chrétiens-là. Notamment, les chrétiens chinois vont évangéliser les Birmans et ils vont traduire la Bible dans 60 dialectes birmans pour permettre l'évangélisation. En 1963, la Bible en Lishu est accessible à 60 000 chrétiens qui habitent dans les tribus montagnardes. Mais hélas, là aussi, la persécution s'abat en Birmanie. Et cette même année, c'est-à-dire en 1963, tous les missionnaires doivent quitter la Birmanie. En 1968, éclate la fameuse révolution culturelle de Mao Tse-tung, qui suit le grand bond en avant. C'est l'occasion alors de grandes persécutions contre les chrétiens. Et il y a des massacres absolument abominables de chrétiens qui ont lieu dans le cadre de cette révolution culturelle. Ces chrétiens étant considérés comme des suppôts de l'Occident abhorré, contre lesquels justement on fait cette révolution culturelle. Et c'est une persécution qui touche non seulement les chrétiens de Chine, mais également les chrétiens de Birmanie. Mais malgré cela, ces chrétiens tiennent ferme, malgré les persécutions, et notamment réfugiés dans les montagnes. C'est le premier mouvement d'importation de Bibles en fraude, qui commence avec donc Porte Ouverte et Frère André en particulier. Des missionnaires de la Thaïlande viennent seconder les chrétiens Lishu qui sont installés en Birmanie pour réviser la Bible et ensuite l'importer en fraude dans tous les pays où elle est interdite. Et c'est ainsi qu'en Birmanie, dans ces années-là, sont créées 40 évangiles, 40 églises montagnardes, à partir desquelles l'évangile, pourtant interdit, se répand en Birmanie, malgré la pénétration du marxisme. Après donc l'échec de la révolution culturelle et en quelque sorte la mise à l'écart de Mao, qui reste officiellement le grand timonier, mais qui est coiffé par ce qu'on appellera la bande des quatre, la Chine connaît une certaine libéralisation. Et dans les années 70, l'Église persécutée peut renaître de ses champs, de ses cendres. Et il y a des espèces de communes populaires qui se créent. C'était l'époque du grand bond en avant, n'est-ce pas? Qui sont uniquement créés par des chrétiens. Et les chrétiens vivent un communisme beaucoup plus efficace que les communistes non chrétiens, et qui sont étonnés de voir que les chrétiens les dépassent dans l'idéal communiste qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Et ça, c'est un témoignage extraordinaire, n'est-ce pas, qui fait qu'il y a l'étau, le carcan de la persécution qui se dessert. Et on assiste à la création d'un grand nombre d'églises, une véritable explosion d'églises chinoises dans les années 70. Il y a des églises qui comptent jusqu'à 5 000 membres. Dans les moindres villages, parfois, il y a des églises très importantes. En Thaïlande, qui est un pays très marqué par le bouddhisme et donc très fermé à l'évangile, se créent aussi dans le même temps de petites communautés, beaucoup plus petites qu'en Chine, mais quand même qui sont extrêmement vivantes. Le dernier missionnaire a quitté la Chine en 1950, et c'est dans les années 60-70 que Frère André reçoit l'appel de ces chrétiens chinois qui n'ont pas, hélas, de Bible, qui sont obligés de se débrouiller avec les moyens du bord. Et c'est ainsi que l'organisation Portes Ouvertes décide de venir en aide à cette église chinoise persécutée. Frère André essaye de pénétrer en Chine, plusieurs demandes de visa lui sont refusées, et finalement il parvient à entrer en Chine, avec tout à fait officiellement, et à prendre contact avec les églises persécutées, malgré le fait qu'il est suivi par des sbires du régime qui ne le lâchent pas d'une semelle. C'est dans le nord de la Chine que les communautés chrétiennes sont les plus vivantes, malgré le fait que le gouvernement communiste essaye de coiffer cette église. Il a compris que le christianisme est indéracinable en Chine, mais il essaye justement de le contrôler. C'est ainsi que les catholiques ne peuvent avoir aucun contact avec le Vatican et les évangéliques ne peuvent pas avoir aucun contact avec l'Occident. pour pouvoir être reconnus officiellement, les chrétiens doivent admettre qu'ils ont été l'instrument de l'impérialisme. Un certain nombre acceptent et sont relativement tolérés. Les autres considèrent que la majorité considère que c'est une trahison et refuse cette affaire. Donc, depuis le grand bond en avant de 1968, les attaques contre la foi ont été absolument incessantes. À partir de la révolution culturelle, de nombreux chrétiens ont été jetés en prison. Et malgré la libéralisation du fait que, dans les années 70, la plupart des chrétiens refusent de reconnaître, entre guillemets, leur collusion avec l'Occident, la répression finalement reprend. Le créateur, justement, des communautés, qui est donc ce mouvement des communes populaires qui avait été lancé au moment de la révolution culturelle, et un chef spirituel chrétien du nom de Chun Tai-yen avait créé donc ce mouvement des communautés qui avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, époustouflé le pouvoir communiste, meurt en 1990. Mais ce mouvement est profondément implanté désormais en Chine. Chun Tai-yen a aussi créé ce qu'il appelle le mouvement des familles pour Jésus. Il était lui-même d'origine méthodiste, qu'il avait connu donc en 1920, et il avait compris que la communauté était le moyen qui permettrait à l'Église chinoise de tenir dans la persécution. Il était en même temps féru de confucianisme dont il venait quand il s'est converti. Il était un spécialiste de la médecine chinoise, et on peut dire que pendant ces années-là, il a été le grand apôtre de la Chine. Il a commencé par créer une ferme modèle à Makuhang, et les mouvements des communautés avaient pour principe de donner 9 dixièmes de la production agricole qui était la leur aux pauvres. Les communistes étaient tellement époustouflés qu'ils ont été obligés de laisser faire. Dans les années 70, on a vu l'Église grandir et on recruté officiellement 2 millions de chrétiens, bien que beaucoup aient été massacrés. Le mouvement des communautés était un mouvement où justement tous les membres du village étaient chrétiens. L'Église, évidemment, était le centre du village. Ils sont communistes par leurs actes, dans ce sens qu'ils ont tout en commun, comme le veut la doctrine marxiste et comme le veut justement le modèle de l'Église de Jérusalem qu'on trouve dans le premier chapitre du livre des Actes. Et durant le jour, l'Église est un centre de production. Le soir ou le dimanche, elle sert évidemment de chapelle. En 1976, Mao décède. Et c'est pour Frère André et l'organisation Porte Ouverte l'occasion de lancer ce qu'ils appellent l'opération arc-en-ciel. Il s'agit de faire entrer clandestinement en Chine 30 000 Bibles. L'opération donc qui est montée par les chrétiens chinois et les chrétiens de Hong Kong, qui sert de base justement à l'opération par des bateaux et des moyens de ce type-là, n'est-ce pas, est un succès total. Et bientôt donc le réveil gagne toute la Chine. Il n'est pas rare de trouver des auditoires de centaines voire de milliers de personnes. Il y a aussi un autre mouvement qui naît à cette période-là, c'est la création d'églises de maison, qui reprend d'ailleurs ce qui avait été lancé en son temps par un chrétien aussi chinois très connu, Watchman Nee, qui a été lui massacré après avoir été torturé par les communistes, et qui donc était un mouvement en quelque sorte informel, qui donc était difficilement repérable par le pouvoir communiste, puisqu'il n'était pas véritablement structuré, en tout cas pas officiellement, et les maisons privées servaient de centres d'évangélisation. Par contre, le gouvernement chinois ne trouve pour attaquer l'Église qu'un seul biais, la pratique de la dîme. La dîme est en quelque sorte une institution qui va à l'encontre des principes marxistes, etc., qui permet à l'Église d'enrichir ses pasteurs, parasites, etc. Et c'est l'usage de la dîme qui provoque justement la persécution. Malgré tout, encouragé par le succès de l'opération Arc-en-Ciel, Frère André a préparer un grand coup. Il s'agit de faire en sorte de passer cette fois-ci clandestinement non plus 30 000 Bibles, mais 1 million de Bibles. Là, c'est une opération absolument gigantesque. C'est une opération qui est menée comme une véritable opération militaire, avec des moyens, des bateaux de débarquement qui sont chargés de Bibles, etc., etc., sur de très nombreuses caisses qui pèsent chacune plus d'une tonne, 285 caisses, c'est pas de plus d'une tonne. Et les 20 000 chrétiens chinois participent à cette opération, sont mis dans la confidence, et ce secret, n'est-ce pas, parvient à être tenu de telle sorte que le 1er juin 1981, l'opération donc est lancée. Et en quelques heures, n'est-ce pas, les caisses sont débarquées, avant l'arrivée de la police chinoise, qui finit par être prévenue de ce qui se passe, évidemment, ça ne passe pas inaperçu, et qui parvient à récupérer les dernières caisses, à les jeter à la mer. Mais les chrétiens chinois parviendront à récupérer l'essentiel de ces caisses, et alors les chrétiens, les soldats chinois tentent de brûler les Bibles ainsi récupérées. Mais là aussi, les cartons seront soustraits à l'incendie par les Chinois. Il y aura bien quelques milliers, voire dizaines de milliers de Bibles qui disparaissent, mais l'essentiel de l'opération est un véritable succès, et la Chine tout entière se trouve envahie justement par, inondée de ces Bibles interdites. Depuis, le mouvement n'a cessé de croître, et depuis une certaine libéralisation du régime, mais certaine, il faut mettre certaine entre guillemets, n'est-ce pas ? Depuis la chute du mur, il y a eu malgré tout une certaine libéralisation en Chine. C'est une véritable explosion, n'est-ce pas, de l'Église chinoise. Il est difficile de chiffrer aujourd'hui le nombre des chrétiens chinois, c'est par millions. Peut-être même dixième de million qu'il faut les compter, de telle sorte qu'on peut se demander si, au XXIe siècle, l'essentiel du christianisme ne sera pas justement en Chine. Il y a des missionnaires aussi qui passent depuis, enfin des jeunes missionnaires qui sont des Asiatiques au demeurant, qui viennent soit de Taïwan, soit de Hong Kong, jusqu'au moment où Hong Kong était britannique, et qui parcourent justement à pied, après avoir reçu une formation spéciale, notamment par l'organisation de Frère André, et qui parcourent donc à pied des milliers de kilomètres pour évangéliser, pour fortifier les églises. Et Frère André, quand on l'avait rencontré il y a quelques années de cela, n'est-ce pas, nous disait que la moindre réunion pour ces gens-là dure 6 heures minimum, quoi. On les oblige à parler, les chrétiens sont tellement assoiffés de la parole de Dieu que c'est des heures et des heures d'affilée qu'ils doivent parler, et que certains rentrent avec des extinctions de voix terribles, quoi. Ils sont incapables de parler quand ils ont comme ça parlé pendant des jours et des jours. Tant est grande justement la soif de la parole de Dieu en Chine. Alors bon, on en est là, hein. Les persécutions continuent, il faut quand même le dire, et certains chrétiens sont arrêtés, torturés, mis à mort, etc. Mais malgré cela, eh bien, le mouvement se poursuit. Autre pays du sud-est asiatique qui a connu aussi des choses tout à fait intéressantes pendant ce siècle, c'est la Corée. La Corée, où les choses avaient démarré d'une manière assez difficile, il faut bien le dire, au début du siècle. Et c'est au moment du réveil de Chine, de Goswus, n'est-ce pas, que les choses ont commencé à bouger en Corée, à la suite justement du réveil qui avait éclaté en Chine. En 1919, la Corée, qui était un protectorat japonais, s'était soulevée contre le Japon. Et de nombreux chrétiens avaient participé à cette révolte. Si bien que les chrétiens avaient été considérés comme des patriotes et ils avaient fini par être tolérés, justement à cause de cela. Vous savez que c'est en 1951, qu'a éclaté justement la guerre de Corée, qui a été un des grands conflits de ce siècle, lorsque les communistes ont essayé, avec l'aide de la Russie soviétique, stalinienne à cette période-là, de s'emparer, de mettre la main sur la Corée. Ce qui a provoqué une révolte, une riposte américaine. Les Américains ont envoyé des troupes en Corée et une terrible guerre de plusieurs années a duré donc en Corée, au terme de laquelle le pays a été coupé en deux. Il l'est encore aujourd'hui. Le nord de la Corée restant sous un régime communiste jusqu'à nos jours extrêmement dur, et le sud étant donc sous l'influence américaine, c'est-à-dire libérale et occidentale. De ce fait, au moment de la partition de la Corée, en 1951, de nombreux chrétiens du Nord, où il y avait de très nombreux chrétiens, se sont réfugiés dans le Sud, pour des raisons religieuses, parce que les persécutions, bien sûr, n'ont pas tardé à éclater dans le Nord du pays. C'est en 1953 que l'affaire de Corée a pris fin. Et à partir de ce moment-là, est-ce que c'est le résultat de la guerre, de la menace d'une invasion communiste qui reste toujours présente jusqu'à aujourd'hui? En tout cas, un extraordinaire réveil a éclaté en Corée. Là aussi, une soif dans la Corée du Sud s'entend, bien sûr. Une véritable soif de la parole de Dieu extraordinaire a eu lieu. Il y aurait actuellement 2 millions de chrétiens en Corée, qui est un petit pays, Corée du Sud. C'est-à-dire 71% de la population serait touchée par le christianisme. Mais un christianisme qui, il faut bien le dire, est très divisé. Les premiers missionnaires en Corée ont été des martyrs. Et c'est en 1908 que l'Église de Corée a commencé à s'organiser véritablement. À l'époque, on l'a vu, le pays était occupé par les Japonais et les chrétiens ont donc été persécutés dès 1906. Puis a éclaté le réveil de Chine et c'est à Puengjiang, la capitale du Nord, l'actuelle capitale du Nord, que le réveil s'est fait le plus sentir. Le réveil, c'était un réveil de prière au début qui a entraîné de nombreuses convictions de péché. Et pendant 20 ans, 20 ans après le réveil, on en sentait encore les effets. Pendant des jours et des jours, il y avait des réunions de prière qui duraient parfois toute la nuit, qui se tenaient. C'est-à-dire que le réveil de Corée a commencé dans ce qui est aujourd'hui le centre même du pouvoir communiste. Puis, de là, les pasteurs ont répandu le feu dans tout le pays et des régions et des villages entiers ont été saisis par l'Esprit de Dieu et en l'espace de quelques années, toute la Corée a été évangélisée. Même des endroits où des missionnaires n'avaient jamais pu pénétrer. De la Corée, le réveil a atteint la Sibérie, dont la frontière nord du pays touche à la Sibérie russe. Vous savez que la Corée donc est passée sous la domination japonaise après la guerre russo-japonaise de 1905. Et dès lors, il y a eu une nipponisation de force de la Corée, n'est-ce pas ? De telle sorte que tous les Coréens ont dû sacrifier au culte shintoïste qui était le culte officiel du Japon. Et de nombreux chrétiens finalement ont cédé devant la persécution et cela a éteint le réveil. Une deuxième vague de réveil a eu lieu donc après le départ des Japonais en 1945, par la reconstruction de nombreuses églises, au prix de grands sacrifices d'ailleurs financiers. Et alors, évidemment, lors de l'arrivée des communistes, la situation des chrétiens est devenue dramatique. Et l'ancienne capitale du réveil est devenue le centre de la persécution des chrétiens. De nombreuses églises ont été fermées. Et malgré cela, les chrétiens ont tenu ferme. Ils se sont bien priés en plein air. Dès 5 heures du matin, n'est-ce pas, ils allaient prier dans les grottes, dans les montagnes, etc. Et donc, ils ont tenu, malgré les persécutions, jusqu'au moment où ils ont dû, la plupart d'entre eux, migrer dans le Sud. Pour les chrétiens du Sud, l'arrivée de ceux du Nord était une véritable bénédiction. Et c'est ainsi que, pendant plusieurs dizaines d'années, la Corée du Sud, après la guerre, qui a divisé le pays en deux, a eu le privilège d'avoir pour président de la République un chrétien, M. Syngman Rhee, qui était un véritable chrétien né de nouveau. Il avait été condamné à mort par les Japonais, et là, dans sa cellule, en attendant son exécution, il avait lu la Bible, et c'est là qu'il s'était converti. Il avait commencé par prier pour son gardien, qui s'était converti, puis après la guerre, donc, il avait été libéré sans être exécuté, bien sûr. Et alors qu'il était encore en prison, il avait réussi à créer un groupe d'études bibliques dans la prison même. C'est ainsi qu'après la guerre, il est devenu président de la République et bien entendu, il a fait tout son pouvoir pour favoriser l'implantation du christianisme dans son pays, favoriser le ministère des chrétiens. Il est entré en fonction en 1948. Il était au pouvoir en 1950 au moment de l'attaque communiste et de la prise de Séoul. Là aussi, la première partie de la guerre a été quelque chose de terrible, même pour les chrétiens du Sud, parce que Séoul est tombé entre les mains des communistes. et les chrétiens ont dû fuir l'extrême sud du pays, qui était la seule partie qui était tenue par les Américains. L'essentiel du pays était aux mains des communistes. Alors là, les églises étaient brûlées, les chrétiens massacrés, ça a été un moment terrible. Les Américains ont réussi à refouler les communistes au-delà de Séoul. Deux fois, Séoul a été reconquise par les communistes et libérée par les Américains. C'est dire que les chrétiens ont subi des moments extrêmement difficiles. Et malgré cela, pendant ces temps terribles de la guerre, il y a eu de puissantes effusions du Saint-Esprit, peut-être justement à cause de ces épreuves que subissait le peuple coréen. Après la guerre, donc en 1953, quand la paix est revenue, le réveil s'est poursuivi dans le sud. Et là, on a vu de nombreuses écoles bibliques se créer, et notamment le collège biblique le plus grand du monde se trouve jusqu'à aujourd'hui en Corée. Les églises ont cru d'une manière considérable. Rien qu'à Séoul, il y a 600 églises évangéliques. À Busan, la deuxième ville du pays, 211. Et au nord aussi, de nombreux Coréens du Nord se sont convertis au christianisme. Les églises sont non seulement des centres d'évangélisation, mais aussi des centres d'œuvres sociales. Après la guerre, le pays était en ruine, il fallait tout reconstruire, et les églises et les chrétiens ont joué aussi un rôle important dans cette manière de faire. Jusqu'à aujourd'hui, le réveil se poursuit. Les chrétiens commencent leur journée dès 5 heures du matin par au moins une heure de prière qui rassemble des milliers de personnes dans les églises et parfois tout simplement en plein air, hein, par tous les temps. Certains donc passent des nuits de prière, et alors on ne compte plus les miracles extraordinaires de guérison qui ont lieu donc dans ces groupes-là, qui manifestent une telle consécration. On note même des résurrections de morts, n'est-ce pas ? Et la consécration des chrétiens coréens est telle que certains vont jusqu'à donner 50% de leurs revenus pour notamment l'évangélisation, et l'évangélisation de la Chine, l'évangélisation du sud-est asiatique. Dans le Nord, s'est créé, malgré l'extraordinaire répression qui se manifeste là-bas, parce que la mainmise communiste qui dure encore en Corée du Nord est en fait un des régimes les plus répressifs du monde. Malgré tout, il y a de nombreuses églises clandestines au Nord. À l'inverse de ce qui se passe au Vietnam, la Corée est un pays où l'on résiste au communisme. Hein. On résiste au communisme par l'intermédiaire de la foi chrétienne et notamment par la prière. On peut dire que la Corée est le seul pays où le réveil dure depuis des dizaines d'années sans aucune interruption. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne semble pas, Dieu merci, qu'il soit sur le point de s'essouffler, même si il y a parfois des déviations, il y a parfois des choses un peu curieuses, notamment cette église qui se donne comme étant la plus grande église du monde, avec le pasteur Yoongi Cho, n'est-ce pas, qui a une tendance quand même à mélanger pas mal les choses de la les cultes traditionnels de la Corée avec le christianisme. Autre pays du sud-est asiatique aussi. Ce sont les Philippines. Îles qui avaient donc été colonie espagnole pendant longtemps, avant d'être colonie américaine au moment du 19e siècle, et qui était un pays essentiellement catholique, puisqu'évidemment, il avait été évangélisé, entre guillemets, par les Espagnols. Et lorsque les Américains sont arrivés en 1914, ils ont favorisé, évidemment, les missions évangéliques et protestantes. Entre 1914 et 1919, c'est-à-dire à peu près, si vous voulez, pendant l'époque de la Première Guerre mondiale, la progression de l'œuvre de Dieu a été très lente. Mais malgré tout, pendant cette période, le nombre des chrétiens évangéliques a doublé. Des populations entières ont été évangélisées, mais il y avait une très grande, de forte résistance qui se manifestait. Bon, les Philippines, vous savez, ont été occupées par les Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. Et la situation des chrétiens est devenue aussi extrêmement difficile, extrêmement précaire, comme ce fut le cas, par exemple, dans les îles qui dépendaient plus ou moins des Philippines, enfin, qui en étaient proches géographiquement, du moins. Et un certain nombre de missionnaires ont décidé de rester pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale dans les Philippines, malgré la présence des Japonais. Un certain nombre ont été tués, Ce fut le cas aussi en Nouvelle-Guinée, où l'évangélisation de l'île a commencé, notamment des Papous. Les Papous qui étaient des populations qui étaient très primitives, disons, féroces, qui n'avaient jamais été touchées par l'évangile et qui s'y sont opposés farouchement dans un premier temps. 8 missionnaires, parmi les premiers qui sont allés les évangéliser, ont été tués. C'était des coupeurs de tête et réducteurs de tête, vous savez, ce que cela représentait. Petit à petit, l'évangile a pénétré, mais ça a été très difficile parce qu'il y avait des mélanges avec les cultes locaux, des résurgences d'idées païennes, parfois des chrétiens locaux apostasiés, etc. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que ce que recherchaient les populations indigènes, c'était plus le niveau de vie et la richesse des Blancs que véritablement l'évangile. La Nouvelle-Guinée était aussi peuplée d'un certain nombre de tribus cannibales. Et c'est en 1955 que ces tribus ont été évangélisées par un jeune missionnaire canadien qui se nommait Don Richardson et qui est allé évangéliser la tribu des Sawa. Puis en 1962, avec sa femme et son jeune fille et son jeune fils, ils ont touché des tribus de coupeurs de tête dans un estuaire qui avait été touché par les Hollandais et où il a tenté de créer une station missionnaire. Il a réussi à prendre contact avec les indigènes de l'intérieur du pays grâce à une autre tribu, la tribu des Kayagas, et il a décidé de s'installer dans l'arrière-pays, un endroit qui s'appelait Kamour. Les indigènes l'ont aidé à se faire, mais bientôt il s'est trouvé au centre de rivalités qui faisaient que ces tribus s'entretuaient les uns les autres. Et notamment, autour de Kamour, il y avait 3 villages indigènes qui étaient en guerre les uns contre les autres. Le moindre différend, le moindre problème qui pouvait éclater entre ces tribus pouvait dégénérer en un véritable massacre généralisé. Et donc, Don Richardson a commencé à évangéliser ces gens-là, après avoir un peu appris la langue, passé son temps à apprendre la langue, soigner les malades, etc. Bon, comme faisaient tous les missionnaires à ce moment-là, et acquis ainsi leur confiance. Et quand il a eu suffisamment de connaissances de leur langue, il leur a prêché l'évangile. Et là, ils se sont rendus compte que l'évangile n'avait aucune prise sur ces gens-là. Et au bout du compte, ils se sont rendus compte que le héros de l'évangile n'était pas Jésus, mais Judas. Celui que ces populations admiraient, c'était Judas. Pourquoi ? Parce que, justement, il s'est rendu compte qu'il y avait une coutume abominable chez ces gens-là, que quand on voulait vraiment du mal à un ennemi, on essayait de gagner son amitié, de le mettre en confiance. Et quand on avait gagné la confiance de cette personne, eh bien, au moment où cette personne ne s'y attendait pas, on la trahissait et on l'assassinait. Ça, c'était le comble de la sagesse, c'était le... Et voilà, Jésus avait été trahi par Judas, n'est-ce pas ? Judas avait réussi à gagner la confiance de Jésus et il l'avait trahi. Donc Judas était le héros selon les critères de ces tribus-là. Et c'est ainsi que, comprenant que ne voyons pas trop que par quel biais prendre les choses, Don Richardson a décidé d'abandonner. Et c'est alors qu'il a découvert une autre coutume à partir du moment où un incident a éclaté justement entre les 3 villages qui étaient autour de cette affaire. Et il avait donc décidé de partir et les indigènes ne voulaient pas qu'il parte. Et Don Richardson a dit « Je m'en vais parce que vous allez vous exterminer à cause de moi. » Et quand ils ont vu que les Richardson allaient partir, les indigènes ont dit « Bon, écoute, voilà, maintenant, si c'est comme ça, nous, on ne veut pas que tu partes. On va faire la vraie paix. » Ah, parce que vous avez une manière de faire la vraie paix, oui. Et comment vous faites la vraie paix ? Eh bien, pour faire la vraie paix, on échange un enfant de la paix. Ça veut dire que les chefs des tribus rivales échangent un de leurs enfants. Et c'est le gage qu'il n'y aura pas de trahison. C'est-à-dire que l'enfant de l'autre est otage, si vous voulez. Ce sont des otages. Donc là, on est sûr qu'il n'y aura pas de trahison. Maintenant, évidemment, il peut y avoir malgré tout des exceptions. Mais alors là, tuer un des enfants de la paix, C'est au contraire là le plus grand crime que l'on puisse commettre. Et pour Don Richardson, ça a été le trait de lumière. Il a rassemblé son monde et il a dit, eh bien, finalement, vous n'avez pas compris l'évangile. C'était avec Dieu que vous étiez, que l'homme était en opposition. Et il a prêché sur le texte, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu a donné au monde l'enfant de la paix. Et Judas a tué l'enfant de la paix. Alors là, quand les indigènes ont compris que Judas avait tué l'enfant de la paix, il est tombé de son piédestal. Jésus était l'enfant de la paix et Judas a trahi l'enfant de la paix. Et là, ça a été le début de l'œuvre nouvelle, n'est-ce pas? Don Richardson a pu évangéliser donc à fond ces gens-là. Et bientôt, donc, les tribus entières se sont converties. Tant et si bien qu'au bout de quelques années, Don Richardson s'est senti enhardi jusqu'à organiser pour Noël une convention. Une convention de tous les villages ennemis. Il y a peu de temps encore, et un tel cocktail détonnant, c'était un risque énorme qu'il prenait, car si ces gens-là n'avaient pas véritablement saisi l'évangile, alors c'était le massacre généralisé, quoi. La convention se terminait en bain de sang. Bon, après avoir prié, après l'assurance que Dieu était avec lui, il a décidé d'aller de l'avant. Mais c'était pas sans une certaine appréhension qu'il voyait les pirogues qui arrivaient de tous les villages, etc. Parfois, il observait des regards qui s'échangeaient entre les gens des différentes tribus qui n'étaient pas tellement amènes. Chacun reconnaissait un ancien ennemi, etc. Et puis à un moment, alors là, le drame a failli éclater. Une pirogue est arrivée, et alors là, le chef du village a saisi ses armes et a dit à ses hommes, il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais? A dit le missionnaire. Il dit, je vais le tuer. Il dit, pourquoi? Parce que celui-là, c'est un traître. Il a tué l'enfant de la paix qu'on lui avait donné. C'est un Judas. Celui-là, il doit payer. Et on était au bord du drame parce que les guerriers de ce chef-là étaient prêts à se battre pour lui, évidemment. Et alors, Don Richardson leur a expliqué que là aussi, ce chef s'était converti lui aussi. Il avait reçu le pardon de Dieu, etc. Et il a exhorté le chef aussi à lui pardonner. Si tu as reçu le pardon de Dieu, tu dois aussi lui pardonner. Il y a eu un moment difficile où les deux chefs étaient l'un en face de l'autre, et les armes à la main, prêts à en découdre, et un long silence. Et puis soudain, le chef offensé a laissé tomber ses armes. Et il a pris l'autre dans ses bras et c'était la réconciliation. Ça a été le. Alors là, ça a été la convention a été absolument réussie, ça a été un succès. Et par conséquent, donc, cette évangélisation a été l'évangélisation du dernier peuple, en quelque sorte, qui n'avait jamais eu l'occasion d'entrer en contact avec les Blancs et par conséquent avec l'Évangile. Il y a eu un autre endroit aussi où l'Évangile a connu un essor absolument extraordinaire pendant le courant du XXe siècle, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, qui est un des plus grands pays, c'est le plus grand pays musulman du monde, qui est composé de deux grandes îles principales, Java, Sumatra, d'îles plus petites, Flores, Timor, et puis la troisième, c'est quoi? Quelqu'un me aide ma mémoire, monsieur le directeur des écoles, spécialiste de la géographie. Bon, il y a la troisième, peu importe. L'essentiel donc de la population de l'Indonésie est musulmane, mais jusqu'à ces dernières années, l'islam indonésien était un islam plutôt tranquille, plutôt pacifiste, n'est-ce pas? L'Indonésie avait failli virer au communisme dans les années 50-60, quand elle avait eu pour président un certain Sukarno, qui avait été d'ailleurs celui qui avait libéré l'île du joug des Hollandais, puisque jusque dans les années 50, l'Indonésie était une colonie hollandaise. Et le président Sukarno faisait partie de ce qu'on appelait le bloc des pays non alignés, avec Nehru d'Inde, président de l'Inde, Tito de Yougoslavie et Nasser d'Égypte. Et Sukarno était aussi, bon, en principe, à cette époque-là, la Chine communiste faisait partie des pays non alignés. Et alors il y a eu liens très étroits qui se sont noués entre la Chine et l'Indonésie à cette période-là. Et la politique de Sukarno reposait aussi sur l'existence d'un grand parti communiste local. Tant et si bien que la tentation était grande pour la Chine de mettre la main sur l'Indonésie, en provoquant un coup d'État qui aurait renversé le pouvoir de Sukarno. Finalement, l'armée indonésienne a eu vent du complot. Elle a décapité le parti communiste, renversé Sukarno et pris le pouvoir. Le pays a donc été sauvé justement du communisme. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que dans les dernières décennies du siècle, il s'est considérablement islamisé. Et l'islam indonésien, qui était encore une fois un islam modéré, entre guillemets, est devenu maintenant, comme tous les islams, pratiquement un islam fanatique. Bon. Si l'essentiel du pays était musulman, la population du pays était musulmane, il y avait une île où le christianisme était dominant, c'était l'île de Timor. L'île de Timor qui était divisée en deux, une partie qui appartenait à l'Indonésie, qui faisait partie de l'Indonésie, et une partie qui était colonie australienne. On sait que ces dernières années, il y a eu des troubles au moment de la décolonisation, justement, où il a été question de donner à Timor, à la partie australienne de Timor, son indépendance, ce qui a été une occasion pour l'islam minoritaire d'essayer de prendre le pouvoir là-bas. Ça a provoqué des massacres énormes de chrétiens. Une intervention donc sous l'égide de l'ONU des Australiens et des Américains pour essayer de rétablir l'ordre à Timor. Pour l'heure, la situation est extrêmement instable dans ce pays et la situation des chrétiens en particulier demeure très critique. Mais au milieu des années 60, avait eu lieu parmi les chrétiens de Timor un extraordinaire réveil, un des plus extraordinaires réveils du siècle. En 1964, une institutrice, toute simple, si j'ose dire, a eu une vision. Et Dieu lui disait qu'il lui donnait un don de guérison et qu'elle devait partir de village en village pour exercer son don de guérison. Ce qu'elle a fait. Et dans une île, justement, à cette époque-là, il y avait peu de médecins, donc la situation sanitaire de l'île était dramatique. Elle se nommait Rataxualu et elle était fille d'un pasteur. Elle est allée donc voir son père, lui expliquer ce qui s'était passé. Et son père était un peu surpris, bien sûr, mais il lui a dit que bon, bah, elle essaye, qu'on voit. Hein. Et de fait, elle a commencé à prier pour les malades, et les malades ont commencé à être guéris. Elle a donc commencé à sillonner les villes et villages des environs. Et là, des foules se pressaient pour qu'elle leur impose les mains. Et ces gens-là étaient guéris. On sait bien sûr que une femme peut avoir des dons de guérison, ce n'est pas incompatible selon la Bible. Comme une femme peut prophétiser, une femme peut parler en langue, une femme peut avoir les dons spirituels qui sont décrits dans 1 Corinthiens 12, donc c'était tout à fait possible que cette femme ait ça, ait ce type de don. Donc il y avait des milliers de guérisons, mais bien entendu, comme elle était une femme, elle ne prêchait pas l'évangile. Elle se contentait d'imposer les mains aux malades pour que ces gens-là soient guéris. Et c'est ainsi que en 1965, un missionnaire suisse, Sherman, est arrivé à. Ah oui, la troisième île, c'est Bali. Bali, Florès et Timor. Hein. Donc, il est arrivé à Bali avec son épouse. Il a commencé des campagnes d'évangélisation dans les deux principales villes de l'île, Kupang et Soé, où il a prêché, bien entendu, la conversion. Et il y a eu un certain succès. Nombre d'habitants de l'île ont commencé à brûler leurs fétiches. Et à Bali aussi a éclaté un réveil. Un réveil qui a commencé dans une école et qui s'est répandu dans les environs comme une traînée de poudre. Et qui a commencé de la manière suivante. Un beau matin, un des élèves a eu une vision. Dieu lui a ordonné de brûler ses fétiches. Dieu lui a dit aussi qu'il était appelé à prêcher sa parole. Et ces gens-là sont entrés en contact, par le plus grand des hasards, avec justement des gens qui venaient de Timor, donc de l'île voisine de Timor. C'était le 26 septembre 1965. Et bientôt, une équipe de 23 missionnaires, hommes et femmes, donc les femmes se contentant de prier pour les malades, ont commencé à prêcher dans les îles. Donc, cette fois-ci, prêchant l'évangile avec repentance et prière pour les malades. Et alors, les miracles de guérison ont été extrêmement nombreux, y compris miracles de prophétie. Par exemple, dans une seule soirée, on notait jusqu'à 700 guérisons, dont plusieurs cas de résurrection de mort. Dans cette même ville, il y a eu 9000 conversions en 2 semaines, à la suite de ce qui s'était passé. Ensuite, 2 autres couples ont formé une deuxième équipe, et une des guérisons les plus spectaculaires qui était enregistrée dans ces campagnes, c'était la guérison d'alcooliques. L'alcoolisme, bien que la population était en principe musulmane, était endémique dans ces îles. Et notamment, on s'enivrait avec un alcool de riz de très très mauvaise qualité et qui était un véritable torboyau, n'est-ce pas ? En un an, 72 équipes d'évangélisation se sont mises à l'œuvre. C'est-à-dire qu'elles regroupaient 1 millier de prédicateurs environ. On a assisté à des miracles extraordinaires, tels que par exemple un analphabète qui était âgé de 25 ans, qui soudain a été rendu capable de lire et d'écrire, et s'est mis à écrire immédiatement des cantiques qu'il s'est mis à jouer. Voilà le genre de choses. Des prophéties révélaient des choses cachées dans les vies. On notait de très très nombreuses, enfin relativement nombreuses, résurrections de morts. Par exemple, un jeune homme dont le décès avait été constaté a été rendu à la vie. Une prophétie, dès qu'il a été rendu à la vie, lui a ordonné d'aller se rendre témoignage devant les membres du gouvernement lui-même. N'est-ce pas ? Une femme qui avait douté de la guérison d'un aveugle a été elle-même frappée de cécité. Confère l'histoire d'Élimas le magicien dans le livre des Actes. Elle s'est repentie et immédiatement elle a retrouvé la vue. N'est-ce pas ? On note aussi la résurrection d'un enfant mort depuis 48 heures et qui, dans la chaleur des îles, avait commencé déjà à se décomposer. Il y avait de nombreuses prophéties qui toutes insistaient sur ce fait, n'est-ce pas, que les armées célestes se préparaient pour le grand jour du retour du Seigneur. En 1969, une grande convention a eu lieu à Java, dans l'île de Java. Et des miracles aussi extraordinaires ont eu lieu. Des chrétiens qui n'avaient pas d'autre moyen de locomotion pour se rendre à la convention ont été rendus capables de marcher sans manger, sans boire, 9 heures sans éprouver la moindre fatigue. 9 heures d'affilée, n'est-ce pas ? Il y a eu aussi d'autres miracles attestés. Tout ça, ce que je vous dis là, c'est pas des racontars, ça peut sembler des racontars, mais ça a été attesté par ces missionnaires suisses là, qui les ont vus de leurs yeux. Hein. Et dans une région très pauvre, où les chrétiens ne pouvaient même pas subvenir à leurs besoins, et notamment les serviteurs de Dieu, ils étaient donc en train d'évangéliser, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils ont dit « Seigneur, ta parole nous dit que tu nourris les oiseaux du ciel, alors tu vois, donne-nous à manger ». Et soudain, une nappe blanche est apparue du ciel et une main invisible, en quelque sorte, une main qui s'est rendue visible plus exactement, a pris quelque chose sur cette nappe et a commencé à distribuer quelque chose, une nourriture que ceux qui l'ont goûté ont dit qu'ils n'avaient jamais mangé quelque chose de semblable. Quoi. C'était quelque chose de véritablement céleste. Et 8 fois, pendant 3 jours, ils ont été nourris de cette manière-là, par cette même nappe. Un miracle aussi qui s'est reproduit souvent, c'était le miracle des noces de Cana. Quand on s'est mis à célébrer la Sainte-Cène, évidemment, le vin est inconnu à Timor, pour une bonne et simple raison, c'est que la vigne n'y pousse pas. La seule boisson, outre justement les jus de fruits et choses semblables que boivent les indigènes, c'est ce fameux alcool de riz dont j'ai parlé tout à l'heure. Il était évidemment hors de question de célébrer la Sainte-Cène avec ce torboyau avec lequel, justement, beaucoup d'Indonésiens sont empoisonnés. La divonnerie était le fléau de l'île, comme on l'a dit tout à l'heure, et lorsque les chrétiens se convertissaient, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils rompaient avec toute boisson alcoolisée. Et alors donc, comment célébrer la Sainte-Cène ? C'était le problème de ces chrétiens indonésiens. Et un beau jour, donc, un pasteur a lu l'histoire de Cana, l'histoire du miracle de Cana. Alors, il avait constaté qu'il faisait quand même la Sainte-Cène souvent avec du vin de palme et que cela a amené de nombreuses rechutes d'alcooliques, justement. Et alors il a prié, dit « Seigneur, est-ce que tu ne pourrais pas faire ce que tu as fait à Cana ?» Et quelques jours après, il a reçu une vision. Dieu lui a dit « Oui, je vais refaire ce que j'ai fait à Cana. C'est moi qui transformerai l'eau en vin. Prenez de la Sainte-Seine avec de l'eau. » Et le 5 octobre 1965, donc, les chrétiens de cet endroit ont commencé à remplir des récipients d'eau pour célébrer la Sainte-Seine. Et quand ils ont distribué ces récipients à l'assistance, ces gens-là ont bu du vin. C'était du vin. 8 fois aussi, le miracle s'est reproduit. 8 fois d'affilée. Et l'Esprit de Dieu, c'était un vin particulier, qui avait un goût très particulier. Les missionnaires suisses qui rapportent ce phénomène l'ont goûté eux-mêmes, n'est-ce pas ? Et l'Esprit de Dieu a dit qu'il fallait garder ce vin pour l'utiliser pour la guérison des malades. On le faisait boire aux malades, ceux qui restaient après, et les malades étaient guéris. C'était un vin sans alcool. Et dans ce réveil de Timor, l'Esprit de Dieu était tellement puissant qu'il y avait des réunions qui duraient jusqu'à 13 heures d'affilée. Les Chinois sont battus. Dieu donnait des instructions à ces chrétiens jusque dans des tout petits détails de ce qu'ils avaient à faire. Et il fallait absolument suivre à la lettre les instructions du Seigneur, sinon il y avait des problèmes, quoi. Et lorsque le miracle de Cana s'est produit, le Seigneur a signifié une chose, il a donné une vision disant « c'est un signe eschatologique, c'est un signe de la proximité du retour du Seigneur ». D'ailleurs, c'était le sens du miracle de Cana aussi, n'est-ce pas ? Le 17 novembre 1965, l'Esprit de Dieu a envoyé une de ses servantes en Nouvelle-Guinée. Et là-bas, en 1968, aussi, le miracle de l'eau changée en vin s'est reproduit en Nouvelle-Guinée. Le 7 décembre, cette même personne était envoyée par l'Esprit de Dieu vers 2 pasteurs qui étaient en Bisbille et pour qu'ils soient réconciliés, qu'ils sont réconciliés. Il y a eu des problèmes aussi parce que certains pasteurs sont tombés dans l'orgueil. Et ça ne tardait pas, n'est-ce pas, dans ces cas-là, il y avait un jugement de Dieu très, très vite qui venait. Un des rois de Timor, des tribus de Timor, s'est converti. En fait, c'était rien d'autre que le gouverneur de l'île. Il a fait brûler tous ses fétiches, dont certains, justement, avaient une grande valeur. Le réveil a duré un certain nombre d'années. Puis, au moment des problèmes avec l'islam, dont nous avons parlé tout à l'heure, les choses se sont estompées. Là aussi, les persécutions ont commencé. La ferveur s'est refroidie. Les miracles ont disparu. Et puis, aujourd'hui, les chrétiens, vous le savez, sont en proie à cette terrible persécution que nous avons évoquée, où certains d'entre eux sont traînés, sont écartelés avec des voitures, les enfants sont traînés derrière des voitures jusqu'à ce que les morts s'en suivent. Enfin, c'est des choses absolument abominables. On peut se demander d'ailleurs si le Seigneur ne leur a pas envoyé ce réveil pour les amener à tenir ferme, sachant qu'ils allaient ensuite connaître des choses extrêmement difficiles. Et cette situation des chrétiens de Timor est pratiquement ignorée aujourd'hui. C'est aussi sujet de prière qu'il faut que nous fassions pour nos frères persécutés là-bas. Voilà, on va se tenir à ça pour ce soir, si vous voulez. Est-ce que tu me prêtes